Vous écoutez On lit pour vous.
Le mystère des crampes et des points de côté. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 octobre 2025 dans la presse. Un lecteur, Pierre Normand, demande « Qu'est-ce qui cause les crampes du mollet et les points de côté? » Il y a une incertitude sur la cause de ces deux mots affligeant les sportifs. On pense que les crampes du mollet ont une origine nerveuse, mais leur cause n'est pas identifiée avec certitude, explique Gaia Giurato, une neurophysiologiste de l'Université de Vérone en Italie, qui a fait le point sur la question en 2018 dans le Journal of Electromyography and Kinesiology. Il y a peu d'études sur la question parce que ce n'est pas un problème qui peut mettre la vie d'une personne en danger. Les deux hypothèses pour expliquer les crampes sont une hypersensibilité nerveuse et un mauvais fonctionnement du réflexe qui gère la tension musculaire. Au départ, on pensait que c'était dû à la déshydratation ou à la chaleur, parce que ça survenait souvent chez les mineurs et qu'il fait chaud dans les mines, dit la chercheuse. On recommandait par exemple aux athlètes de manger une banane avant de faire du sport pour avoir du calcium, qui manque lorsqu'on est déshydraté. Mais on a écarté ces deux causes il y a quelques décennies et on a conclu que c'était un problème nerveux. Les nerfs en question commandent la tension musculaire. S'ils sont trop sensibles, ou alors s'ils ne répondent pas au réflexe de cesser la tension musculaire après un certain temps, le muscle reste en position tendue, ce qui devient douloureux avec le temps. Je pense que c'est plus un problème du réflexe, avance Mme Giurato. L'une des manières connues de faire passer une crampe est de masser le mollet. Ça peut favoriser la transmission du signal du réflexe à travers les tendons. Deux autres aspects des crampes, leur fréquence plus élevée durant la grossesse et les crampes nocturnes, sont encore plus mystérieux et moins bien étudiés. En raison du manque d'intérêt de la médecine pour ce problème, il est difficile de trouver du financement. Gaia Giurato avait un projet de recherche pour déterminer laquelle des deux causes possibles des crampes est la bonne, mais elle n'a pas réussi à la financer. Elle s'est intéressée à cette question parce qu'avant ses études supérieures, elle faisait des compétitions de saut en longueur et souffrait régulièrement de crampes. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces crampes. J'ai décidé de les étudier. Elle est maintenant spécialiste des différences physiologiques entre hommes et femmes, notamment au niveau de la mitochondrie, l'usine énergétique des cellules humaines. Comment peut-on prévenir les crampes? On a parlé d'étirements, mais leur efficacité pour prévenir les crampes n'a jamais été démontrée. Certains pensent que la déshydratation peut aggraver le problème de réflexe ou alors que la fatigue musculaire peut créer un déséquilibre de l'adénosine, triphosphate ou ATP, une molécule impliquée dans le transfert de l'énergie entre les cellules. Mais ce que ça a comme implication clinique pour la prévenir n'est pas clair. Points de côté. La recherche sur les points de côté, dont le nom technique est « douleur abdominale transitoire liée à l'exercice », ETAP selon l'acronyme anglais, est limitée pour la même raison. Comme personne ne va en mourir, il est difficile d'avoir du financement pour en étudier les causes. Des chercheurs australiens sont les seuls à s'être penchés sur la question avec assiduité au début du millénaire. Dans une étude publiée en 2015 dans la revue Sports Medicine, Darren Morton et Robin Callister de l'Université d'Avondale à Currumbong, au nord de Sydney, énumèrent une longue liste de causes possibles. Ils évoquent notamment un manque d'oxygène aux cellules du diaphragme ou des organes gastro-intestinaux, des ligaments endommagés dans le diaphragme, une distension gastro-intestinale, des crampes abdominales, la compression d'artères, une hypersensibilité des nerfs de la colonne et l'irritation du péritoine. Joint en Australie, Darren Morton estime aujourd'hui que Cette dernière explication est la plus probable. L'étude des physiologistes de l'Université d'Avondale est l'une des rares à s'être intéressée à la fréquence de l'étape. La natation et la course sont les sports où elle est plus fréquente, le quart de ces athlètes en faisant l'expérience lors d'un événement sportif donné. Plus des deux tiers des coureurs et des nageurs avaient déjà eu des points de côté durant leur carrière, selon cette enquête menée en 2000 auprès de 965 athlètes. Les cyclistes sont les moins susceptibles d'avoir des points de côté, moins du tiers en ayant déjà souffert. Pour prévenir les points de côté, les physiologistes australiens proposent d'éviter de manger ou de boire 2 heures avant l'exercice, de redresser sa posture et d'améliorer sa musculature abdominale ou encore de soutenir l'abdomen par une ceinture posturale. Mais ils notent qu'aucune de ces méthodes de prévention n'a été testée expérimentalement. En savoir plus. 42%, proportion des coureurs d'un marathon qui ont vu leur performance affectée par un point de côté. Source, Journal of Science and Medicine in Sport. C'était « Le mystère des crampes et des points de côté », un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
Des astéroïdes au menu des astronautes. Un texte paru le 6 novembre 2024 dans le magazine Québec Science. L'exploration spatiale évolue sans cesse et les vols habités iront de plus en plus loin dans l'espace. Mais comment nourrir des astronautes voyageant de longs mois loin de la Terre? Une solution inattendue pour ne pas transporter toute la nourriture à bord, se nourrir d'astéroïdes. Les missions spatiales habitées iront sûrement de plus en plus loin grâce aux innovations technologiques. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir envoyer des humains sur Mars. Mais une question reste en suspens. Comment nourrir les astronautes pendant de longues périodes, loin, très loin de la Terre? L'exploration du système solaire pose en effet un défi majeur. Nourrir les astronautes durant ces longs voyages. Pour le moment, toute la nourriture consommée dans l'espace doit être envoyée depuis la Terre, ce qui est coûteux et complexe pour des missions de longue durée. De plus, le ravitaillement depuis la Terre devient difficilement envisageable pour de très longues distances. Imaginez, un aller simple vers Mars prendra environ 9 mois. Comment emporter et stocker assez de nourriture pour le trajet aller-retour? Une solution imaginée par des scientifiques, transformer les astéroïdes en nourriture comestible. Plus précisément, une équipe de chercheurs de l'Université de London en Ontario est parvenue à produire de la biomasse comestible en utilisant les composés organiques provenant d'astéroïdes. Bien sûr, il n'est pas question de croquer directement dans un morceau de roche spatiale. Le processus pour les rendre comestibles est complexe et se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut extraire les composés organiques des astéroïdes par pyrolyse en chauffant à haute température sans oxygène. Les composés extraits sont ensuite transformés en huile qui alimente des bactéries. Le résultat? Une substance ressemblant à un yogourt au caramel et potentiellement nutritive pour les astronautes. Mais avant que cela devienne réel, la sécurité et la qualité nutritionnelle de cette nourriture astéroïdale devront être rigoureusement testées. D'autres obstacles restent à surmonter. Il faut développer la technologie pour extraire et transformer les matériaux des astéroïdes dans l'espace. Bien que l'idée de manger des astéroïdes puisse sembler étrange aujourd'hui, elle pourrait bien devenir une réalité dans le futur de l'exploration spatiale. Cette approche pourrait révolutionner les missions habitées de longue durée en offrant une source de nourriture quasi illimitée et indépendante de la Terre. C'était « Des astéroïdes au menu des astronautes », un texte paru le 6 novembre 2024 dans le magazine Québec Science.
La marche est l'un des meilleurs investissements pour votre santé. Un texte de Charlotte Mercil, paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir. Alors que le printemps invite à se remettre en mouvement, la marche demeure trop souvent reléguée au rang d'activité insuffisante. Elle constitue pourtant l'un des investissements les plus rentables pour notre santé. À la fonte des neiges, la même injonction revient. Il faudrait se remettre en forme. Dans l'imaginaire collectif, cela rime souvent avec abonnement au gym, séance de haute intensité et quête de calories brûlées. Or, selon les experts, on passerait à côté de l'essentiel. Notre rapport au mouvement est façonné par une culture de la performance et de la transformation physique rapide. À cela s'ajoute la capture massive du temps libre par les écrans. Téléphones, ordinateurs et plateformes numériques grugent des heures autrefois consacrées au mouvement. Résultat, une activité gratuite, accessible et sécuritaire est trop souvent boudée, alors qu'elle pourrait constituer la base du mouvement quotidien. La régularité avant l'intensité. En réalité, il n'est pas nécessaire de courir, de soulever des poids ou de viser les fameux 10 000 pas pour améliorer sa santé. À partir de 4 000 ou 5 000 pas, on observe déjà des bénéfices importants. Le message principal, c'est de briser la sédentarité, affirme Martin Junot, cardiologue et directeur de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. Aussi peu que 15 minutes de marche par jour sont associées à une diminution d'environ 15 % de la mortalité prématurée, toutes causes confondues. À 30 minutes, on s'approche d'une réduction de 25 %, ajoute-t-il en citant une vaste étude menée auprès de plus de 400 000 personnes à Taïwan. 10 minutes de marche quotidienne peuvent déjà produire des effets mesurables, notamment sur le diabète de type 2, et 30 minutes permettent de réduire les risques d'infarctus de 20 %. C'est énorme, renchérit Suzanne Laberge, professeure à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. À cette diminution du risque s'ajoutent des effets documentés sur la tension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, la santé osseuse ainsi que la prévention des maladies cardiovasculaires. Marcher régulièrement contribue également à la fonction cognitive et au maintien de l'autonomie en vieillissant. Madame Laberge nous dit « Marcher augmente la circulation sanguine au cerveau et facilite ainsi le développement de nouvelles cellules. On observe également chez les marcheurs un temps d'endormissement raccourci et une réduction de réveil nocturne. La recherche montre par ailleurs que la constance compte davantage que l'effort ponctuel. 10 minutes aujourd'hui, 15 demain, 20 après-demain. Une progression graduelle suffit pour obtenir des effets physiologiques mesurables. Le mot-clé, c'est la régularité. Que la fréquence soit là, précise-t-elle. Même l'intensité peut être modulée sans basculer dans l'entraînement extrême. On peut fractionner la vitesse en petits intervalles de 30 ou de 45 secondes plus rapides. Ça augmente la fréquence cardiaque sans provoquer de douleur ni de blessure. Enfin, la marche entraîne très peu de blessures, comparativement à des activités physiques plus intenses. Tous les bénéfices qu'on associe aux activités de performance, la marche les offre aussi, avec beaucoup moins de risques d'accident. Une question d'environnement. L'accès à la marche n'est toutefois pas distribué équitablement. La quantité de marche dite utilitaire, celle que l'on pratique notamment pour aller faire des courses, dépend énormément de l'environnement bâti, souligne Suzanne Laberge. Dans plusieurs municipalités, l'absence de chemins piétonniers, les longues traversées au feu de circulation ou la vitesse élevée des voitures décourage le déplacement à pied, particulièrement chez les aînés. La responsabilité ne peut donc pas reposer uniquement sur les individus. Les politiques municipales permettent une action concrète. Remplacer un stationnement extérieur par un parc, par exemple, c'est un investissement et non une dépense. Des infrastructures appropriées jouent aussi un rôle central. Trottoirs déneigés, bancs publics, arbres pour offrir de l'ombre l'été. La sécurité, la densité et des services de proximité accrus favorisent tous la marche, souligne la chercheuse. L'objectif n'est pas de contraindre les citoyens, mais de rendre les choix sains plus faciles. En d'autres mots, il faut construire des quartiers où se déplacer à pied devient plus simple et plus attrayant que de prendre le volant. dans une société vieillissante aux prises avec une hausse des maladies chroniques, la marche apparaît comme un levier de prévention simple, abordable et inclusif. Pour Martin Junot, l'objectif n'est pas de vivre plus longtemps à tout prix, mais de préserver l'autonomie le plus longtemps possible. L'enjeu actuel, c'est de réduire la période de vie passée en mauvaise santé. La marche est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Et surtout, insiste-t-il, il n'existe pas de modèle unique. La meilleure activité physique est celle que l'on peut maintenir toute sa vie. C'était « La marche est l'un des meilleurs investissements pour votre santé ». Un texte de Charlotte Mercier paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir.
Le droit de désirer entre testostérone et liberté. Un texte de Mathieu Perrault paru le 3 avril 2026 dans La Presse. Le désir féminin n'a pas besoin de l'aide de l'industrie pharmaceutique pour s'exprimer, estime Géraldine Lachance-Fortin, médecin de famille. Le désir. Droit fondamental et pourtant si souvent refusé aux femmes. Désir féminin, fluide et évanescent, vaste, subtil et riche, bien au-delà de la dimension sexuelle étroite à laquelle on peut le confiner, source de vie, de créativité, de puissance et de joie. Je suis médecin de famille et récemment, je lisais sur le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif. Ce trouble existant depuis toujours et formellement diagnostiqué depuis les années 1970, avant on disait qu'une femme était frigide, afflige un grand nombre de femmes et se caractérise par une baisse du désir sexuel féminin soutenu et entraînant une souffrance significative. Je découvrais, non sans une certaine stupeur, qu'un traitement pharmacologique, la testostérone, était désormais proposé aux femmes. Le résultat escompté, entre 0 et 0,85 rapports sexuels satisfaisants de plus par mois, en échange d'un risque accru d'hirsutisme et d'acné, je sais, ça fait rêver. Avec toute la mauvaise foi dont je suis capable, je me demande premièrement, satisfaisant pour qui ? Loin de moi, l'idée de ridiculiser le problème et les femmes qui en souffrent, qu'elles prennent ou pas de la testostérone. Au contraire, le problème est sérieux et mérite toute notre attention, car désirer, c'est vivre. Et comme le dit Frédéric Lenoir, vivre sans désir, au sens large, c'est mourir. Rien ne m'afflige davantage qu'une femme qui meurt intérieurement en silence. Je souhaite encore moins minimiser la souffrance et le sentiment d'inadéquation que ces femmes ressentent. Mais je ne sais par où commencer pour exprimer mon malaise face à la testostérone. Avons-nous atteint, comme société, un niveau de simplisme tel que l'on accepte l'idée qu'un concept aussi complexe et fascinant que le désir sexuel féminin peut être réduit à un taux de testostérone ? Avons-nous une confiance si aveugle en la médecine qu'on accepte de lui confier des enjeux beaucoup plus grands qu'elle ? Notre pensée magique voulant que les médicaments règlent tous nos problèmes psychologiques, sociaux ou résultant d'un vieillissement normal doit vraiment être grande parce que la testostérone se révèle d'une efficacité très discutable et pourtant elle est de plus en plus recommandée et prescrite. La testostérone est un des facteurs contribuant au désir sexuel des femmes et des hommes. Les femmes en produisent naturellement, mais en quantité bien moindre que les hommes, et cette quantité diminue de façon linéaire en vieillissant à partir de la vingtaine, et ce, pour toutes les femmes. Toutefois, il n'y a pas de corrélation directe entre le taux de testostérone sanguin et le désir sexuel. Il n'est donc pas utile de mesurer ce taux pour établir ou confirmer le diagnostic du trouble du désir sexuel hypoactif. Cela étant dit, je me risque ici à une hypothèse alternative au déficit en testostérone pour expliquer l'atrophie de l'éros féminin. Se pourrait-il que l'espace mental des femmes ait été à ce point colonisé par les désirs des autres qu'il n'y reste pas la moindre parcelle libre pour y cultiver leurs propres désirs et leur créativité? En ce qui me concerne, je suis rempli de gratitude envers l'industrie pharmaceutique qui se préoccupe du manque de désir qui me guette et veut y remédier par un supplément d'hormones viriles, tout en déguisant par une habile opération marketing l'imposture en féminisme. L'imposture dont je parle ici, c'est de surestimer les bienfaits de la testostérone, et c'est surtout de l'utiliser comme un pansement occultant toutes les forces psychologiques, conjugales et sociales à l'œuvre pour anéantir le désir féminin. Je compterai toutefois sur mes propres moyens pour prévenir l'agonie de mon éros. Voici ce que je souhaite pour moi, ma fille, ma sœur, ma mère, mes amis, mes patientes et toutes les indomptables sorcières, c'est-à-dire les femmes, afin que le désir reprenne ses droits. Cultiver un jardin secret. Avoir une chambre à soi comme Virginia Woolf. Être le sujet de notre propre vie et non un objet dans la vie des autres. Désirer, point. À ne pas confondre avec désirer, être désiré. Faire ce qu'on veut de nos corps. Respecter qu'ils souhaitent ou pas porter la vie. Disposer librement et équitablement de tous les moyens pour que cette vie puisse ou ne puisse pas s'y implanter. Pouvoir marcher dans la vie sans avoir constamment peur d'être harcelé, agressé. S'affranchir de l'illusion qui déguise la quête de la beauté et de la jeunesse éternelle en compétences désirables. C'est un mensonge, une aliénation qui siphonne la substantifique moelle des femmes, qui plus est l'entreprise est inéluctablement vouée à la faillite. Refuser de s'enfermer dans le carcan étriqué des deux modèles dominants encore à ce jour proposés aux femmes, la madone à l'enfant ou la femme objet. Pour les mères dont je suis, exister en dehors de la maternité. Afin d'y arriver, exiger dans le couple un partage équitable des tâches domestiques et liées à l'éducation des enfants. Être des esprits libres, investir des champs traditionnellement réservés aux hommes comme l'intelligence et l'humour, transgresser les règles du patriarcat, on ne joue plus. Ouvrir les fenêtres de la maison du sacro-saint, couple, homme, femme, et y laisser entrer le vent de la liberté. Toute flamme privée d'oxygène finit par mourir, et le bilan des victimes des amours mortes est accablant. Dans les deux camps, repenser sur un pied d'égalité la pluralité des liens possibles entre hommes et femmes hétérosexuels et en assouplir les contours. Désirer la liberté, désirer écrire, libérer la colère, que le volcan jaillisse. Effet bénéfique démontré de la testostérone chez les femmes ayant un trouble du désir sexuel hypoactif. Augmentation du nombre de rapports sexuels satisfaisants par mois avec la testostérone, plus 0,85 chez les ménopausés et plus 0 chez les préménopausés. Nombre d'orgasmes par mois avec testostérone 2, avec placebo 0,75. Force du désir. Plus le chiffre est élevé, plus le désir est fort. 20 sur 100 au départ, augmentation à 33 sur 100 avec testostérone et à 26 sur 100 avec placebo. Détresse personnelle. Plus le chiffre est faible, moins la détresse est grande. 65 sur 100 au départ, réduction à 39 sur 100 avec testostérone et à 51 sur 100 avec placebo. C'était « Le droit de désirer entre testostérone et liberté », un texte de Mathieu Perrault paru le 3 avril 2026 dans la presse.
Google ajoute des garde-fous à son IA pour prévenir la dépendance des jeunes. Paru le 7 avril sur tvanouvelles.ca. Google a dévoilé mardi une série de modifications censées empêcher son assistant d'intelligence artificielle, IA générative, de se comporter en compagnon et de risquer de rendre les jeunes dépendants à son interface. Ces garde-fous doivent notamment interdire à Gemini de prétendre être humain ou posséder des attributs humains, a expliqué la filiale d'Alphabet dans un communiqué. Google a ajouté à son modèle des protections conçues pour prévenir la dépendance émotionnelle, éviter tout langage qui simule l'intimité ou exprime des besoins, a ajouté le groupe de Mountain View, Californie. Les interactions entre adolescents et applications d'IA générative sont un sujet de préoccupation pour de nombreux parents, associations et élus. En avril 2025, l'ONG américaine Common Sense a recommandé d'interdire aux mineurs les interfaces d'IA se présentant comme des compagnons virtuels, notamment Character, A-I-N, Replica. S'ils ne sont pas conçus ou promus de cette façon, les assistants IA les plus connus comme ChatGPT, Claude ou Gemini sont aussi utilisés comme tels par de nombreux adolescents. Un tiers des 13-17 ans interrogés dans le cadre d'une étude commandée au printemps 2025 par Common Sense indiquait se servir de ces logiciels IA pour des interactions sociales et des relations. En janvier, Google et Character AI ont conclu des accords amiables pour solder des poursuites lancées par des familles accusant des robots conversationnels de nuire à des mineurs et d'avoir contribué au suicide de l'un d'entre eux. Mardi toujours, Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités en matière de santé mentale pour les utilisateurs de Gemini. Si l'interface détecte des signes selon lesquels l'internaute songe au suicide ou à l'automutilation, elle fera apparaître un lien direct vers un centre de soutien psychologique, en ligne ou téléphonique. Gemini peut être un outil utile pour apprendre et trouver de l'information. Ce n'est pas un substitut à l'intervention d'un professionnel de santé, à une thérapie ou un soutien en cas de crise, souligne Google. En cas d'alerte, Gemini a été entraîné à répondre de façon appropriée en orientant l'utilisateur vers une assistance humaine. C'était « Google ajoute des garde-fous à son IA pour prévenir la dépendance des jeunes » paru le 7 avril sur tvanouvelles.ca.